Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le régime démocratique a vu le jour au Mali en 1991, plus précisément avec la chute du président Moussa Traoré. 27 ans après, ce régime tant accueilli à bras ouverts par les Maliens, à l'éclosion, ne fait pas l'unanimité aujourd'hui chez la population malienne. Nos invités sur ce plateau, Dr Fousseyni Doumbia, professeur de droit public et des sciences politiques à l'Université du Mali, Mamadou Malick Sow, ancien secrétaire général de l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès, Dr Souleymane Dé, juriste et chargé de cours à l'Université de Bamako, et professeur Issa Ndiaye, universitaire acteur du mouvement démocratique. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. 26 mars 1991, 26 mars 2018, 27 ans après le bilan de l'exercice démocratique scinde les Maliens. Alors nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Sow. Selon vous, qu'est-ce qui ressort de ces 27 ans de démocratie?
Merci d'abord, Togola. Je tiens d'abord à remercier sincèrement tous les auditeurs et auditrices également du studio Tamani. En essayant de recadrer un tout petit peu le débat, peut-être qu'il faudra avoir l'échange autour des axes prioritaires de discussion. Je peux prendre à titre illustratif comme étant l'axe purement institutionnel. Là. Mais pourquoi d'abord 91? C'est dans le souci d'apporter forcément de l'innovation en termes de gouvernance dans ce pays. Gouvernance en ce sens qu'il fallait au fait avoir une certaine éclosion sur le plan politique, économique, social et culturel. Je ne vais pas m'aventurer trop sur tous les champs. Je reste dans un cadre qui m'appartient, dans lequel je me sens à l'aise. Il aurait fallu simplement que certains jeunes, un certain nombre de jeunes prennent conscience que leur état d'esprit et leur situation ne rime pas avec le système qui était en place. Sans autre forme formelle normale de créer une structure associative, ils se sont mis dans la rue. Je ne faisais pas partie. Mais je parle à la suite des choses, je suis devenu secrétaire général de l'AJDP. Qu'est-ce qu'on demandait? La création pure et simple, ou l'ouverture pure et simple de la gouvernance démocratique dans ce pays. C'était lundi 15 octobre 1990, les autres n'étaient pas encore nés. Je ne fais pas de pierre aux gens. Mais c'était à peu près une façon également d'exprimer notre quiétude, notre inquiétude, mais également une façon également de dire voici à quoi nous voulons acquérir comme également avancée démocratique. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais sur le plan institutionnel, nous avons constaté d'abord, durant cette période de 91 à maintenant, il y a eu une prolifération, peut-être entre guillemets, anarchique même, et des associations de toutes sortes, de tout genre, des associations qui vont jusqu'à ethniciser même la société, ce qui consiste d'abord impréalable, c'est qu'il y a toute forme de dérive possible sur le plan politique, sur le plan social. On a eu l'éclosion des partis politiques. Peut-être le débat va également nous amener sur d'autres champs. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais ce qui est sûr, il y a eu au moins une ouverture démocratique. Et pratiquement toutes les formes de structures qui ont été créées, associations, organisations, partis politiques, n'importe quoi, entre guillemets, le terme est trop fort peut-être, quand on entend même des associations des Doumbia, des Sow et des Traoré, ben écoute, là ça ne va pas. Ce n'était pas l'idéal au départ. Ce n'était pas l'objectif au départ. Le mobile, c'était d'abord une ouverture démocratique. Mais cadré, suffisamment cadré, pour harmoniser les relations humaines au sein de la société malienne. C'était à l'épreuve, là, au départ.
D'accord. Alors, professeur Ndiaye, qu'en dites-vous?
Je pense que ce que nous appelons processus démocratique ressemble, à mon avis, à des fleurs qui ont vite fané avant d'atteindre les promesses que les Maliens espéraient, parce que il faudrait se rappeler qu'on venait de loin, 23 ans donc de répression, d'une dictature féroce, où de nombreux Maliens y ont laissé la vie ou ont eu des séquelles physiques. Donc à l'époque, il y avait deux grandes aspirations, si je peux m'exprimer ici. D'abord, la quête de la liberté. Donc, on voulait plus de liberté, tous les niveaux. Cette soif-là se comprenait. Et ensuite, il y avait la quête de la démocratie, parce que nous croyions à l'époque que démocratie, que liberté et démocratie allaient résoudre les problèmes que nous vivions à l'époque. Mais très rapidement, donc, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. En ce qui concerne donc la liberté, il y a eu un laisser-aller. Qu'il était difficile de restreindre pendant la première transition, eu égard à la soif de changement qu'il y avait dans le pays. Donc chacun voulait être libre, libre même de faire ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, le bilan que nous faisons, c'est que cela nous a conduit vers une sorte d'anarchie où il n'y a plus d'autorité de l'État. L'autre aspect, donc l'autre quête, c'était la quête de la démocratie. Donc la démocratie, malheureusement, nous l'avons conjuguée qu'avec les partis politiques en disant donc multipartisme intégral, parce que nous voulions protester à l'époque contre le parti unique. Mais en fait, le multipartisme, nous avons aujourd'hui une multitude de partis uniques qui se comportent exactement comme les partis uniques. Donc, et puis démocratie, pour nous, ça veut dire donc élection, simplement élection. Donc aujourd'hui, on se rend compte que et les modèles institutionnels que nous avions donc imités, qui sont la plupart du temps ont été importés, et les comportements politiques que nous avons importés, qui n'étaient pas des comportements endogènes, nous ont conduit aujourd'hui dans l'impasse. C'est-à-dire que le bilan donc de 27 ans de démocratie, au niveau de beaucoup de Maliens, c'est vraiment des impasses cruelles sur lesquelles nous sommes obligés de nous interroger si nous voulons rebondir dans l'avenir.
D'accord, professeur Ndiaye. Alors, monsieur Doumbia, toutes mes excuses, docteur Doumbia, le professeur Ndiaye nous parle de fleurs fanées et le monsieur Sow nous parle de prolifération anarchique des associations. Et vous, quelle est votre observation par rapport à cette situation?
Alors, merci. Je vous remercie pour cette immense opportunité que vous nous offrez d'être sur ce plateau. C'est vrai que, à l'instar de mes prédécesseurs, il est important de rappeler, à mon avis, que le processus démocratique a commencé surtout dans la plupart des États africains francophones au lendemain de l'indépendance. C'est vrai que le multipartisme était vraiment une réalité, l'ouverture à des libertés publiques et individuelles était vraiment une réalité. Mais on constate qu'il a du mal à prospérer pour des difficultés, n'est-ce pas, de cohésion nationale, d'unité nationale, de développement, ainsi de suite. Donc, il y a eu, n'est-ce pas, à partir des années 80 jusqu'à 91, n'est-ce pas, des résistances allant dans le sens de changement qui a permis notamment une révolution populaire qui a été suivie d'un coup d'État qui a permis à notre pays de se réconcilier avec les principes de la démocratie. Donc, pour dire que c'est vrai, l'avènement de la démocratie en 1991 dans notre pays a suscité beaucoup d'espoir. C'est vrai, du point de vue théorique, il y a eu des avancées. Le multipartisme a été une réalité. Il y a eu des associations qui ont émergé, comme mon cher ami vient de dire. Il y a eu des associations qui ont poussé comme des champignons. Il y a des partis politiques aussi qui ont poussé comme des champignons jusqu'à ce qu'on constate aujourd'hui sur la scène politique malienne une prolifération anarchique des partis politiques. Aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de presque 200 partis politiques. Et si on va aux élections, c'est juste une petite minorité qui s'y présente. Alors que la vocation initiale et naturelle d'un parti politique, c'est de prendre part aux élections. N'est-ce pas? C'est de la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc la plupart d'entre eux, c'est des partis alimentaires qui cherchent à profiter des jeux d'alliance ici et là pour chercher à rentrer, n'est-ce pas, dans le miel du pouvoir. Donc, il y a des avancées, c'est vrai, il y a aussi des perturbations. Nous avons connu deux alternances qui ont eu lieu, notamment sur la base du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels, que moi, je considère comme une alternance qui n'est pas démocratique au vrai sens du mot, parce que la véritable alternance, c'est celle qui se réalise par les urnes. Et ensuite, également, on constate que il y a ce qu'on appelle le pluralisme médiatique qui est là, il y a les citoyens qui s'intéressent de plus en plus à la chose politique. Nous sommes de plus en plus éveillés pour s'intéresser à la chose politique. C'est vrai, le citoyen malien d'hier ou d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Les gens sont de plus en plus éveillés parce que, moi j'ai l'habitude de dire, quand vous prenez un citoyen ou un jeune, vous apprenez la démocratie, vous apprenez la liberté, la justice, la bonne gouvernance. Quand il va grandir, il ne va jamais se taire. La plupart de jeunes aujourd'hui au Mali sont nés dans la démocratie et grandis dans cette démocratie, donc qui sont en train de défendre à tout prix. Donc cette démocratie également a connu des perturbations, ça il faut reconnaître. Il y a eu, n'est-ce pas, on croyait que le coup d'État était révolu. Après, à travers un certain nombre de dérapages de la part des différentes autorités politiques qui nous ont gouvernés, on a été qui nous a conduit surtout à un coup d'État, n'est-ce pas, en 2012. Donc, ce qui est vraiment regrettable aujourd'hui dans le cas de notre démocratie, parce qu'il ne faut pas se dire que oui, la démocratie se repose exclusivement sur une périodicité des élections, chaque 5 ans, ou bien à chaque 5 ans, on va à une élection, ou bien le multipartisme est une réalité, le pluralisme médiatique est là pour dire que tout va très bien. Non, la démocratie doit s'accompagner aussi de la bonne gouvernance, ce qui est extrêmement important, ce qui vient d'être rappelé par Sow. Et qui parle de bonne gouvernance, parle de beaucoup de choses, on parle de la maîtrise de la corruption, du respect de l'état de droit, de la stabilité politique, de la qualité de la réglementation. Donc, ce qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, était quasi inexistant, ce qui a conduit aujourd'hui à une presque à l'effondrement de l'état du Mali. Donc, dans la situation actuelle que nous, dans la situation actuelle dont le Mali est confronté aujourd'hui. Donc, il y a des avancées, ça il faut le dire, mais il reste encore beaucoup à faire.
Et vous, M. D, pensez-vous également la même chose que M. le Dr Doumbia?
Bien, avant de commencer mon propos, je voudrais bien sûr saluer tous les auditeurs de Studio Tamani. Et que dire de plus par rapport aux interventions de mes prédécesseurs? Rien. Sinon que de ramener maintenant les débats à l'étape actuelle, c'est-à-dire où est-ce que la démocratie nous a amenés. Et pour ceux qui nous connaissent, on considère que nous sommes, j'ai fait partie de pratiquement 16 ans, je tiens trop à l'autorité de l'État. Alors cette démocratie du Mali, vous savez que tout État a besoin pour fonctionner d'un certain ordre sans lequel il verse dans l'anarchie. Et la démocratie malienne, malheureusement, elle nous a conduit à un niveau où cette autorité de l'État n'est plus sacralisée, n'est plus respectée, et du moins, on se rend compte jusqu'au niveau de nos villages, c'est-à-dire au plus profond du Mali, c'est qu'on n'a même plus peur de l'État. Donc l'État, cette démocratie nous a amené sur un terrain de l'inexistence à la limite de l'État. Ce qui fait aujourd'hui que, oui, on pense à tort ou à raison que la démocratie, elle nous a amené sur le terrain de la liberté. Oui, sous la Première République, sous la Deuxième République, le vœu des Maliens, c'était d'aspirer à cette liberté qui n'était pas présente. Mais aujourd'hui, cette liberté, elle est très mal comprise. La liberté d'expression, elle doit être inscrite dans le droit. Or, aujourd'hui, la démocratie nous a menés sur un terrain qui prouve à suffisance que le Malien n'a plus d'égard vis-à-vis des institutions de la République, plus de respect vis-à-vis des autorités de la République. Et si nous ramenons le débat au contexte actuel, comme mes prédécesseurs l'ont dit, on suppose que démocratie rime à organisation des élections à intervalles, bien sûr, réguliers. Or, ce n'est pas ça. La démocratie seulement. La démocratie a trait, comme sa définition le dit, hein, gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et le peuple ne sait, est-ce que le peuple aujourd'hui se reconnaît dans la gestion de l'État du Mali? C'est ça le problème. Parce que quand vous regardez la crise de confiance qui est établie entre les gouvernants et les gouvernés, quand vous regardez la crise de légitimité qui est établie entre les gouvernants et les gouvernés, des fois vous vous posez la question. Est-ce que ces autorités que nous avons aujourd'hui émanent réellement du peuple? Du coup, vous avez tous les jeux démocratiques, des principes démocratiques qui sont faussés. Même par le jeu des élections, on se rend compte que n'importe qui ne peut pas se présenter à une élection au Mali. Il faut payer 25 millions pour être président de la République. Et même là encore, il faut avoir les moyens pour battre campagne. Les candidats partent aux élections de façon inégalitaire. Hein. Ils n'ont pas les mêmes moyens pour battre campagne. Et c'est à la limite la plutocratie. Et tout le monde le sait, même les élections législatives, il faut avoir les moyens pour être candidat. Celui qui n'a pas les moyens n'est pas considéré dans les partis politiques et n'est pas proposé. Vous pouvez être intellectuel, vous pouvez être un savant. Si vous n'avez pas les moyens de débourser, vous ne serez rien en matière politique au Mali. Est-ce que c'est cette démocratie qu'on voulait dans notre pays? La réponse, elle est non. Et du coup, vous vous rendez compte, je crois que dans les débats, on y reviendra, c'est que lorsque nous ramenons tout à l'état de droit, vous allez vous rendre compte que dans un état où la loi n'est pas respectée, cela peut conduire à toutes les dérives. Et d'ailleurs, pour ce processus électoral qui est là, qui n'est pas terminé, on assiste à cela. Dans mon intervention aujourd'hui, c'est toujours manifesté porté sur ces points. Lorsque déjà nous sommes dans un état où on a une loi électorale qui, bien sûr, régule le processus électoral, on ne veut pas respecter cette loi. Lorsqu'on a une constitution dans notre pays qui, dans ses dispositions, prend en compte tous les aspects d'une élection présidentielle et jusqu'à son contentieux qui est vidé devant la Cour constitutionnelle. Et qu'on entend, je le dis très fortement, de la bouche, par exemple, de certains candidats, qu'il faut récuser la Cour constitutionnelle. En tout cas, les juges constitutionnels. On a entendu cela. Pour juristes que nous sommes, c'est le candidat Batili qui l'a dit. Mais ça nous a fait bondir au plafond. Comment peut-on récuser un juge constitutionnel? On n'est pas dans un procès civil. On récuse un juge lorsqu'il a un lien de parenté avec une partie. On récuse un juge si on sait d'avance que bon, il va appliquer cette sentence. Mais vous imaginez, là, on n'a pas les résultats que déjà on conteste à l'avance. D'accord. Donc si c'est cette démocratie qu'on veut pour notre pays, et je dis bien toujours que la démocratie malienne, elle nous a amené à des dérives et des dérives lointaines qui vont conduire à notre perte.
D'accord. Alors, professeur Ndiaye, êtes-vous du même avis que le docteur D? Vous pensez que le pouvoir est toujours celui du peuple pour le peuple et par le peuple?
Non, je ne crois pas. Je partage entièrement donc, ce qu'il a dit. Mais je crois qu'il faudrait aller plus loin, parce que interroger même les concepts. Je pense que notre problème fondamental, c'est que nous avions, nous autres intellectuels, donc intégré un certain nombre de concepts. On a appris certaines choses, bon, on le refait. C'est parce que je pense qu'il faut interroger le modèle démocratique lui-même. Le modèle démocratique que nous avions copié en 1991 et qui est dominant dans le monde actuel, c'est un modèle donc démocratique qui répond à certaines réalités, à des réalités occidentales qui ne sont pas les nôtres. Donc déjà, il faut se dire que ça ne peut pas marcher. Et le résultat a été qu'on a affaibli l'État, on a détruit les principes et les valeurs. Il n'y a même plus de débat, hein, c'est des insultes. Il n'y a plus de débat. Donc, moi, je me rappelle, donc, au temps de Moussa Traoré, la qualité des débats, le niveau des débats vers la suite du régime, quand il y a eu l'éclosion des journaux privés, il y avait une qualité de débat que l'on ne retrouve plus. Il y avait une qualité de débat à la télé, au niveau donc de la télévision d'État, que l'on ne retrouve plus. À l'intérieur des partis, il n'y a plus de débat, c'est des partis uniques. Et on se conduit comme des partis uniques quand tu n'es pas d'accord avec le chef, quand quelqu'un, bon, c'est un dissident, on te renvoie, tu vas, toi aussi tu vas créer ton parti. Donc, est-ce que c'est ça la démocratie? Je ne pense pas. Donc, ça veut dire que nous devrions faire l'effort théorique d'interroger les modèles démocratiques que nous avons essayé de réaliser sur le terrain. Ça nous conduit à l'impasse aujourd'hui. Donc, deuxième question aussi, je pense qu'il nous faut interroger notre histoire. Parce que nos villages étaient gérés. Ce n'est pas l'Europe qui nous a amené la démocratie. Hein. Aujourd'hui, on parle de Kourkan-Fouga, mais si on parle dans nos villages, on sait que gérer les choses publiques, nous savions le faire auparavant. Ça veut dire que nous avions abandonné des modèles qui étaient endogènes. Et bien sûr, il y a eu l'évolution du temps. On ne peut plus revenir au passé. Mais nous devrions faire l'effort critique d'interroger tous les concepts que nous utilisons aujourd'hui. J'ai entendu dans le débat parler de bonne gouvernance. Même la bonne gouvernance, qu'est-ce que la bonne gouvernance? Et il faut analyser ce concept et être critique. Ça veut dire que nous en sommes à un point aujourd'hui où nous avons le devoir de mettre tout à plat. De dire que la démocratie que nous pratiquons aujourd'hui nous conduit à l'impasse. Comme le collègue tout à l'heure le dit, si nous continuons dans ce chemin-là, ce serait la catastrophe. Donc, il est temps d'observer une pause très critique, et de dire qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir rebondir. Je pense que la question est là, et il y a des pistes de solutions, mais qu'il ne faut plus aller chercher en Europe ou dans le droit européen, mais qu'il faut aller chercher dans notre culture, dans notre histoire, voir donc ce qui peut donc répondre aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense que la question est là.
D'accord. Alors, Monsieur So, de 1991 à nos jours, quels ont été les défis auxquels la démocratie malienne a eu à faire face?
Bien, je pense que la démocratie malienne, quand même, faudra le dire et le reconnaître. Cette éclosion institutionnelle qui était une quête permanente a été obtenue. Mais ça l'a dit, mais au prix de quel sacrifice? Nous sommes passés par la conférence nationale, mais ça aboutit à quoi? Quelles ont été les recommandations de la conférence nationale? Il y a tellement d'états généraux, la genèse de l'emploi, Issa est mon témoin, je parle même sous son contrôle, et sur le salut du passage. Je pense que le problème n'est pas que nous fassions le procès de système, mais ce qu'Issa a dit, je pense qu'il faut se rappeler d'une seule chose, c'est qu'il faut interroger le modèle. Dès l'a dit, nous sommes à une situation, si nous ne faisons pas attention, nous partirons direct au mur. Une démocratie ou un système de gouvernance est régi par des mécanismes, des principes. On peut faire la pierre à tout ce qui était avant 1991. Je prends un exemple illustratif, qui est aussi un modèle de gouvernance. Dans pas mal d'éléments de gouvernance, l'octroi des marchés publics ne dépassait pas 10 millions de francs CFA. Il a fallu être dans la gouvernance après 1991 qu'on voit que les marchés sont octroyés à 250 millions. Sinon même plus. Ils sont très intelligents, ceux qui sont aux commandes. Je vais plus loin. Quel était le niveau de l'élève malien? Là, je parle encore sous le contrôle de Issa. Il était ministre de l'Éducation nationale. Il m'a reçu dans son bureau quand il était ministre en 1991, ministre de l'Éducation nationale. L'effritement du système éducatif. Mais ce n'est pas qu'en 91 seulement. C'est tout un système qui était là, qui ne marchait pas. Quel est aujourd'hui ce domaine de développement au Mali qui réellement ne souffre pas de la malgouvernance? L'exemple illustratif, c'est quoi? Il dit, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, c'est parce que d'abord, on ne se réfugie pas dans le système juridique. Quel est le cadre juridique aujourd'hui qui est régi par la gouvernance au Mali? Eux, ils sont juristes, je ne suis pas à mesure de défendre ce cadre, mais pour moi, il n'existe même pas de cadre juridique réel qui repose sur des principes directeurs des réalités socioculturelles du Mali.
Docteur Doumia, qu'avez-vous à répondre à cette question?
Alors, c'est vrai que du point de vue du respect des règles qui sont une condition extrêmement indispensable pour le fonctionnement démocratique, le Mali est confronté à d'énormes difficultés. Et ça, souvent, on arrive même à se demander est-ce que nous sommes véritablement un état de droit, parce que l'état de droit suppose le respect de la règle de droit. On ne peut pas faire semblant d'être dans une dynamique d'état de droit alors qu'on n'y est pas. Nous avons vu aujourd'hui, depuis que la constitution démocratique de 92 a été mise en place, depuis que les différentes lois de la République ont été adoptées, nous allons, n'est-ce pas, de violation en violation. La constitution a été toujours malmenée, ça il faut le dire, depuis qu'elle a été mise en place, depuis les différents événements, les différentes situation de crise auxquelles nous avons été confrontés. La constitution a été toujours mise en place. Souvent, on se dit, est-ce que nous sommes véritablement un état de droit constitutionnel? Quand je prends l'exemple sur la transition de 2012, on constate que la constitution malienne a été malmenée, ça il faut le dire, a été malmenée en complicité avec la communauté internationale, en complicité avec les autorités maliennes. Mais maintenant, on va de violation en violation. Donc les différents accords de sortie de crise ont toujours été en violation parfaite avec le corpus constitutionnel. Malheureusement, la Constitution a du mal aujourd'hui à être révisée pour l'adapter au contenu de ces différentes solutions de sortie de crise. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup d'experts même qui se posent souvent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être abandonner la norme constitutionnelle actuelle au profit d'une autre Constitution à partir du moment où elle a été suffisamment malmenée et qu'aujourd'hui on a du mal à la modifier pour l'adapter à certaines situations de crise que nous vivons aujourd'hui.
D'accord, oui. Monsieur Sow, oui.
Cette mauvaise gouvernance s'explique par quoi? Ne serait-ce que seulement ces derniers propos, gouvernement du peuple, enfin, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quel est ce gouvernement au Mali? Après le discours du Premier ministre en 1991 qui a fait l'état de la nation, je n'ai jusqu'ici jamais entendu un ministre ou un Premier ministre faire l'état de la nation. Cela suppose que le politique devrait concevoir un modèle de société qui répond aux préoccupations, aux besoins prioritaires de développement du peuple et ensuite rendre compte au peuple. La gouvernance nous exige de rendre compte. Et d'ailleurs, avec les partenaires nationaux et internationaux, souvent on rend compte, on est obligé. Il y a plusieurs résolutions qui en parlent. Le Club de Paris en parle, le Sommet de Boussan en parle. Si vous ne rendez pas compte, vous serez forcément obligé d'abdiquer parce que vous n'aurez pas l'aide au développement. Et pourtant, le Mali est un pays très riche. Qu'est-ce qui nous empêche de rendre compte? Mais c'est dans ce pays de la mauvaise gouvernance, effectivement, qu'on trouve des fonctionnaires milliardaires. S'il vous plaît, dans un système de gouvernance sérieuse, dans un système réel où on se soucie du peuple, je pense qu'on doit avoir un peu pitié de ce peuple. Je préfère laisser la parole à D, qui certainement a quelque chose à ajouter par rapport à ça.
Monsieur D, oui.
Oui, en fait, je reviens. Mm-hmm. Il y a exactement un corpus juridique dans ces pays qui oblige à atteindre les objectifs de bonne gouvernance. Le gros problème qui se pose à nous, c'est comme on l'a dit, où est-ce que la démocratie nous mène aujourd'hui? Le professeur, le doyen Issa Ndiaye l'a dit, c'est que le Mali avait un modèle de gouvernance bien avant l'entrée du français, bien avant, bien sûr, je le dis bien, et pour nous qui sommes professeurs des droits des collectivités territoriales, on sait comment nos sociétés, en tout cas nos empires, étaient, nos royaumes étaient gouvernés. Et on ne peut pas nous dire que la démocratie, nous l'avions importé. On ne peut pas nous dire que la gouvernance, en tout cas les modèles de gouvernance les meilleurs, qu'on n'en avait pas. Mais en revenant à l'état actuel, comme je l'ai dit, au Mali, la démocratie nous a amenés sur un terrain où tous les Maliens semblent dire avoir raison. C'est la rue qui gouverne. Ce n'est plus le droit qui gouverne. Or, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, certes, comme on l'a dit, c'est le consensus, mais ce consensus s'inscrit dans la légalité. Vous avez vu que lors de la révision constitutionnelle, c'est la rue qui a fait abdiquer. Aujourd'hui, on n'a pas les proclamations des résultats, c'est la rue qui veut faire abdiquer. Finalement, à un moment donné, c'est la rue qui finit, est en train de prendre le dessus sur la normativité. Et ça pose un gros problème. Et en revenant toujours sur cette question de gouvernance, c'est qu'il y a des textes aujourd'hui au Mali qui résistent le comportement de tout un chacun. Il y a un statut pour les fonctionnaires. Pourquoi aujourd'hui au Mali, d'ailleurs, le salaire est tabou? On doit savoir qui gagne combien, quel est son train de vie. Chacun doit pouvoir justifier son train de vie. C'est ça la démocratie également. Que tous les Maliens, parce que c'est l'argent du contribuable qui sert à nous payer. Alors il faudra encore que les peuples maliens puissent se rendre compte que ces gouvernants, s'ils sont à ce niveau, c'est son argent. Et que chacun puisse être sondé pour connaître le niveau de vie de tout un chacun. Et qu'on puisse renforcer l'office du juge. On ne peut pas atteindre les objectifs démocratiques si on piétine au pied l'office du juge. Et si, bien sûr, on a un vérificateur général, par exemple, dans ces pays. À chaque fois qu'il donne un rapport, ce rapport est classé. Jamais on n'a entendu un seul procès lié, hein, au rapport du vérificateur général. On a plein de départements, plein de services institutionnels qui font le contrôle d'État est là. Chaque fois que quelqu'un est épinglé, vous savez, c'est la démocratie, ça aussi. On a introduit par la fenêtre les chefferies traditionnelles. On a introduit par la fenêtre les chefs religieux dans la gestion de l'État. Et à chaque fois qu'on veut faire appliquer le droit, alors on fait passer par la fenêtre les chefferies traditionnelles pour demander à lâcher l'affaire. On fait passer les religieux pour demander à lâcher l'affaire. Ce consensus-là que la démocratie est en train de nous amener, alors que nous sommes dans, si vous prenez l'article 25, ce pays d'abord, comme on l'a dit, c'est une république souveraine, démocratique, laïque et sociale. C'est vrai. Quand on dit social, cela ne veut pas dire qu'il faut aller intervenir à gauche, à droite pour demander à ce qu'on desserre l'école de celui qui a volé l'État. Donc je l'ai dit et je le répète, notre démocratie, elle va très mal. Alors il va falloir, comme les professeurs l'ont dit, remettre tout à plat. Et j'ai eu l'habitude de le dire ici à Sidi Othmani, on a des experts dans ces pays, à tous les niveaux. N'allons pas chercher des experts étrangers, occidentaux. Posons les problèmes aux Maliens, demandons aux enfants de la République de plancher sur ces questions. On a les solutions ici et on va choisir nous-mêmes le modèle qu'on souhaite et pour cela, on va pouvoir aller de l'avant. Et c'est à ce seul prix qu'on va réussir à faire changer les choses. Sinon, tant qu'on va continuer à aller chercher des experts étrangers pour venir nous dicter comment on doit se comporter, alors qu'ils ne connaissent pas notre réalité, on va toujours tirer à côté.
D'accord. Alors, professeur Ndiaye, pensez-vous que les idées ont été trahies?
Bien sûr. Et ce n'est pas du tout surprenant avec le recul du temps quand on regarde. Bon, je pense qu'il y a deux raisons, on en a déjà parlé. C'est parce que, d'ailleurs, le modèle démocratique dont on parle là, ça ne marche nulle part dans le monde. Regardez ce qui se passe en France ou aux États-Unis. C'est une catastrophe. Ça veut dire que, moi, à l'état de ma réflexion, j'ai dit que l'humanité a une étape où il faut repenser les modèles de gouvernance, de démocratie que nous avions, parce que ça ne répond plus nulle part aux réalités du pays. Regardez, les Français disent que la 5e République, ça suffit, il faut aller vers la 6e République. Maintenant, avec tous les chamboulements qui se passent avec sous la présidence Trump, les Américains aussi s'interrogent. Nous sommes aussi pareils. Je pense que notre société, la démocratie a précipité les fractures au sein de notre société. À tel point que je pense qu'il faut se ferrer la, il faut pas se voiler la face. On est complètement dans l'impasse. Moi, j'ai d'ailleurs dit aux gens que si c'est ça la démocratie, sous forme de boutade, moi, je ne suis pas démocrate. Je ne pense pas que ça soit, en tout cas, le modèle démocratique que nous faisons soit la réponse à nos problèmes. Et ça nous permet de rebondir sur une autre question de fond dont on a parlé tantôt. La nécessité de réfléchir à des alternatives. Mais je dis, faisons attention, nous autres intellectuels. Parce que jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a vu? Nous planchions donc sur des alternatives avec notre expertise. Or, notre expertise aussi est souvent nourrie de modèles, de processus de réflexion, de logique qui nous viennent des écoles par lesquelles nous sommes passés. Moi, j'ai dit, pour une fois, essayons une autre solution qui consiste, avant d'utiliser notre expertise, de la mettre au service des populations. Et c'est pourquoi, dans les derniers cheminements de ma pensée aujourd'hui, j'ai dit, si l'on veut sortir le Mali de l'impasse actuelle, allons vers des assises populaires, nationales et souveraines. Je fais un distinguo avec les conférences nationales. Parce que le modèle des conférences nationales, ce sont les élites qui se sont captées entre elles et puis ont parlé au nom du peuple. Donnons la parole aux populations. Maintenant, à partir de cet exercice-là, nous allons savoir ce que veulent les populations, dans quelle direction il faut aller. Et maintenant, nous, en tant que cadre intellectuel expert, nous allons instaurer donc un débat là-dessus pour voir quelle est la meilleure façon de traduire en forme, que ce soit sous forme d'institutionnel, moi j'irais même plus loin, sous forme de code de procédure. Il faut tout revisiter dans ce pays-là, parce que nous avons tout importé. Donc il faut partir du souhait des populations et essayer de construire quelque chose de nouveau, qui réponde aux préoccupations de nos populations, mais qui renoue aussi avec notre culture, notre passé, quelque chose d'endogène, qui puisse permettre à nos sociétés d'évoluer sans forcément se dire que la solution doit venir de l'extérieur. La solution est là, elle doit venir de l'intérieur. Et nous avons les ressources humaines qu'il faut, nous avons l'expérience historique, nous avons la culture nécessaire pour pouvoir résoudre nos problèmes. Je pense que c'est ce courage politique qu'il faudrait que nous ayons pour aller vers ce que j'appelle des assises nationales populaires souveraines.
D'accord. Alors, M. Sow, au regard de ce bilan, regrettez-vous d'avoir été de cette lutte-là il y a 27 ans?
Non, je ne regrette pas du tout. Sauf qu'il faudra simplement dire que le Malien de 91 n'est pas celui du Malien de 2018. Je partage pratiquement beaucoup de points du professeur Issa, sauf qu'il n'a pas touché l'approche stratégique, l'approche méthodologique. Parce qu'on a pensé à tous ces trucs-là. Le problème du Malien, il est connu. peut-on être là de 1960 à nos jours? Il n'y a pas un seul repère au Mali sur lequel vous pouvez dire que ça va.
Et selon vous, quelles peuvent être ces stratégies et ces méthodes-là?
Ces stratégies, il faut que nous ayons un État fort, un État très fort, un État qui gouverne, un État qui dispose de tous les leviers du pouvoir. Il l'a si bien dit.
Pensez-vous que cela est possible?
Cela est fort bien possible. L'État, la gestion des affaires d'État ne rime pas du tout avec le sentiment. En matière de gestion politique, en matière de gestion économique, en matière de gestion juridique, il ne saurait y avoir de la place pour le sentiment. C'est ce qu'il a évoqué tantôt. La scène politique n'est pas faite pour tout le monde. Ceux qui sont acteurs politiques peuvent aller dans l'arène politique. Mais ceux qui ne le sont pas doivent rester dans leur champ. Si vous devez prêcher à la mosquée, restez à la mosquée. Si vous devez être à l'église, restez dans l'église. Si vous devez être au champ, restez au champ. De la lex, c'est lex. La loi est dure, mais la loi demeure la loi. Là, je passe et passe sous le contrôle des juristes.
Et monsieur Doumia, docteur Doumia, êtes-vous d'accord avec cela?
Alors, c'est vrai que, à l'instar du professeur Ndiaye, je suis totalement d'accord avec lui pour dire que c'est vrai, la démocratie, c'est une constitution perpétuelle. C'est vrai, nous, on est venu de 23 ans de dictature. À 27 ans de fonctionnement démocratique, il n'est pas tout à fait évident qu'on connaisse une certaine avancée aujourd'hui, à l'instar des États qui sont à plus de 100 ans de fonctionnement démocratique, même dans les grandes démocraties aujourd'hui, telles que la France et les États-Unis, il y a des failles qui sont relativement constatées dans tel ou tel domaine du fonctionnement de la démocratie. Mais peut-être pour le défi auquel aujourd'hui nous sommes confrontés, vous savez que nous sommes un pays aujourd'hui en crise, ça il faut reconnaître. Le plus important aujourd'hui, c'est de réfléchir à des voies et moyens unanimement acceptés par l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, de la démocratie pour permettre aujourd'hui à notre pays de se relever, de se retrouver, de revenir à la normale, comme on le dit aujourd'hui. Et pour cela, il faut que tous les acteurs du processus démocratique enterrent leur hache de guerre, mettent surtout l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute préoccupation partisane et personnelle. Quand on parle d'acteurs démocratiques, il faut citer les médias, il faut citer le pouvoir politique, il faut citer la communauté internationale, il faut citer les citoyens, il faut citer tous ceux qui contribuent de près ou de loin au fonctionnement de cette démocratie. Le Mali aujourd'hui est un État extrêmement difficile. Donc le plus important, il faut qu'on essaie de rassembler toutes les énergies disponibles pour sortir de cette situation. Maintenant, la grande question peut-être qui mérite d'être posée, est-ce qu'en cette phase de la crise, est-ce qu'on pourrait appliquer à 100% exactement la règle de droit? Ça va peut-être être difficile parce que généralement en période de crise, nous avons toujours tendance à faire des concessions. Quand vous prenez les fonctionnements gouvernementaux au Mali aujourd'hui, on constate que nous sommes un pays co-dirigé où le président de la République que nous avons élu avec plus de 77% des voix est en train de diriger le Mali avec d'autres entités internationales et nationales. La communauté internationale a son mot aujourd'hui à dire par rapport à la gestion de notre pays. Les groupes armés ont leur mot à dire. Donc, alors que nous avons élu un président avec plus de 77% pour qu'il gouverne notre pays. Donc, pour dire qu'il y a des impératifs de crise qu'il faut impérativement prendre en considération. Ensuite, du point de vue économique, c'est vrai, nous sommes, n'est-ce pas, une démocratie fragile, une économie fragile. Hein. La plupart du redressement démocratique aujourd'hui de nos États nous est imposé par la communauté internationale.
Mais selon vous, quel modèle de démocratie faut-il pour le Mali?
Alors, il faut, comme le professeur Ndiaye l'a dit, il faut une démocratie vraiment adaptée à nos réalités. Mais cela risque d'être peut-être difficile si on n'essaye pas du tout de mettre en place les conditions d'un développement endogène de nos différents États. Parce que nous sommes aujourd'hui un État qui dépend entièrement n'est-ce pas, de l'aide internationale. Nous sommes une économie extrêmement fragile, comme on a l'habitude de dire. Il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance économique. La plupart de nos agissements aujourd'hui nous sont dictés par la communauté internationale. En raison de la situation de crise que nous vivons, nous sommes un pays assisté. Donc, on ne paye rien, comme on dit. Il y a un complexe de dépendance économique vis-à-vis de l'étranger. Il faut une véritable indépendance économique pour permettre à nos différents États d'avoir, d'expérimenter ce qu'on appelle leur indépendance démocratique, ce qui est vraiment le cas. Parce que quand vous interrogez même l'histoire de la démocratie dans nos différents États à partir des années 90, on constate que ça a été une des conditionnalités du développement, n'est-ce pas, qui a été imposée aux États africains, n'est-ce pas, pour bénéficier de l'accompagnement de la France au sorti du discours de la Bolle. Donc, il faut qu'on ait notre indépendance économique en vue d'expérimenter une démocratie adaptée à nos réalités, ce qui est extrêmement important.
D'accord. Merci, docteur Doumbia. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui, docteur D, en termes de modèle de démocratie.
Oui, en termes de modèle de démocratie, je ne vais pas rebondir sur tout ce que les présidents ont dit, mais il y a quand même un problème qui se pose à nous. Sommes-nous d'ailleurs un État souverain, un État indépendant ? Nous sommes formellement indépendants. Mais est-ce que dans les faits, dans la réalité, le Mali est un État indépendant? La réponse à tout bout de champ, comme il vient de dire, c'est non. C'est qu'aujourd'hui, on a un modèle de démocratie qui ne colle plus à notre réalité. Alors, que faut-il faire? Bien sûr, il y a une solution. Il s'agit aujourd'hui, comme on a dit, de tout remettre à plat, de revenir sur le terrain. Cette fois-ci, pas entre intellectuels, mais d'aller au plus profond de nos villages, demander aux gens. Vous imaginez? On a des lois ici qui sont à la limite toutes importées. Mais je vous donne un exemple. Allez-y dire au village, si vous cassez ou si vous cueillez une mangue, on va vous sanctionner. Parce que telle loi l'interdit. On va aller cueillir les mangues. Mais dites-leur que si jamais vous partez cueillir la mangue, les fétiches du village sont là, ils vont respecter. On a des règles de vie ici. On a nos lois ici. On a notre modèle que tout le monde connaît, que tout le monde peut respecter. Et si on revient à notre époque moderne, qu'est-ce qui se passe? Cette démocratie qui nous a été amenée sur le terrain seulement des élections, on nous parle tout le temps d'alternance. Mais regardez bien sûr la vie de nos partis politiques. Est-ce qu'il y a derrière l'alternance au sein de nos partis politiques? Mais non! Ce sont les mêmes présidents depuis la création du parti. Ce sont les mêmes hommes qui sont présidents du parti. Alors le parti est-il personnel? Personnalisé? Et dans ces cas, qu'on commence déjà l'alternance dans nos partis politiques et on va réussir l'alternance au sommet de l'État et on va réussir un modèle de gouvernance adapté à notre vision.
Malgré tout cela, est-ce qu'on peut dire que le Mali peut être fier de son expérience?
Oui, si on tire les leçons. Sinon, non.
Okay,
il faut tirer les leçons.
Oui.
Tant qu'on n'arrivera pas à tirer les leçons, c'est non.
On est fier d'une expérience lorsqu'on l'évalue. On ne l'a même pas évalué.
C'est ça le problème.
D'accord. Alors, professeur Ndiaye.
Il faut l'évaluer pour au moins l'apprécier.
Professeur Ndiaye.
Ici, le plus important, je pense que les collègues l'ont dit, c'est la question de la souveraineté. Mais moi, je dis d'abord la question essentielle, ce n'est même pas l'indépendance économique, c'est l'indépendance théorique. Il faudrait que nous soyons capables de penser différemment par nous-mêmes. Or, nous pensons par les autres. Tant que nous ne libérons pas notre capacité de réflexion théorique, nous ne sortirons pas de l'ornière. Donc, je dis souvent, j'ai l'habitude de dire, le défi principal du Mali et des Africains, c'est notre indépendance théorique. Prenons notre indépendance théorique. Et à partir de cela, nous serons capables d'inventer des modèles, des méthodes qui seront longs pour dégager des alternatives pour notre pays.
D'accord, merci beaucoup et cela met fin à ce débat sur la démocratie malienne. Merci à nos invités, Dr Fousseyni Doumbia, professeur de droit public et de sciences politiques à l'Université du Mali, Monsieur Mamadou Malick Sow, ancien secrétaire général de l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès, Dr Souleymane Dé, juriste et chargé de cours à l'Université de Bamako, professeur Issa Ndiaye, universitaire acteur du mouvement démocratique. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Salim Djouara, la régie vous a été assuré par Gagne Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri Haloud Mouni.
Chenne Beri Sigi.